Alors, je vous propose qu'on regarde tout de suite la question du Notre Père, enfin, juste avant, parce que je n'y avais pas pensé avant, mais lorsqu'il est question du serpent et du scorpion, je me suis dit, ça me dit quelque chose. Je pense que ça vous dit aussi quelque chose. On vient de le lire, en fait. Chapitre 10, verset 19. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpent et scorpion, et surtout la puissance de l'ennemi. Donc, on voit la. En l'occurrence, c'est la cohérence du récit de Saint-Luc et surtout du discours de Jésus, puisque ce sont les mêmes termes qui sont utilisés pour désigner ce qui est mauvais. En l'occurrence, le serpent et le scorpion, c'est la puissance de l'ennemi, symbolisée par ces deux animaux. Et ici, il est question d'amitié et donc, à contrario, d'adversité. Et l'adversité va être symbolisée par le don et d'un scorpion à la place de l'œuf et d'un serpent à la place du poisson. Donc on voit cette cohérence. Et donc le Notre Père. C'est pas la première fois que Luc fait mention de Jésus qui est en train de prier, mais par contre c'est la première fois que l'on voit les disciples demander à Jésus comment est-ce qu'il prie, en tout cas lui demander une initiation. Alors ça veut pas dire que Jésus et les disciples ne priaient pas ensemble, hein. Ils priaient probablement ensemble, au minimum, bah pour le Shabbat, puisqu'ils faisaient très probablement ensemble, en communauté, pour les grandes fêtes, évidemment, et même, très probablement, tous les jours, puisque déjà dans la foi juive, il y avait la récitation quotidienne des psaumes. Donc en fait, ils savaient prier ensemble. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que ici, ce n'est pas une prière communautaire. C'est une prière personnelle. Jésus est retiré et il est en train de prier. Donc ce qui est en jeu est différent. Les disciples, c'est très bien, ils veulent imiter Jésus. Donc Jésus va aussitôt les faire entrer dans la filiation divine. Et c'est pour ça qu'il leur dit, vous voulez prier comme moi, pas de souci, Père. Et on se souvient, on l'a dit, de la relation unique qui existe entre le Père et le Fils. Et donc, en disant à ses disciples, bah vous aussi, quand vous priez personnellement, dites Père, il les fait rentrer dans cette intimité. Il crée ce lien unique, ou du moins, il révèle ce lien unique qui existe entre le Père du ciel et chacun de ses enfants sur terre. Donc, on a fait avec ses disciples. Et une fois que cette relation, elle est établie, eh bien, il y a chez Luc, du moins dans le Notre Père de Jésus, version lucanienne, il y a deux souhaits et trois demandes. Le premier souhait, que ton nom soit sanctifié. Ce qui signifie, non pas que le nom du Père n'est pas saint, c'est pas en disant pour l'instant ça ne l'est pas encore, mais ça le deviendra si on le demande. Non, non, quoi qu'il en soit, le nom du Père est saint. Mais ça veut plutôt dire que le souhait, c'est que chaque homme puisse reconnaître la sainteté du Père. Donc derrière, si chaque homme reconnaît la sainteté du Père, chaque homme va aussi entrer dans cette relation au Père, et donc entrer dans la filiation divine. Et donc on est toujours dans cette idée du Christ, qui est le Samaritain qui vient chercher l'homme blessé. Il le fait rentrer dans cette filiation. Il le sauve. Et pareil, pour que ton règne vienne. C'est une invitation à la reconnaissance du règne de Dieu par tous les hommes. Mais maintenant, avec tout ce qu'on a entendu avant, ça ne peut pas résonner simplement comme ton règne de manière vague. Non, on l'a vu. Jésus, il envoie les 72 annoncer le règne de Dieu. On l'a vu avec Marthe et Marie. Jésus, c'est l'Emmanuel. C'est Dieu avec nous. Donc, il est présent. Et puisqu'il a dit qu'il avait vu Satan tomber du ciel comme l'éclair, le règne de Dieu est là, quoi. Avec Jésus, le règne de Dieu est là. Donc que ton règne vienne, c'est pas simplement souhaiter que ça arrive, c'est déjà là, mais il faudrait que tous les hommes puissent le reconnaître pour que tous les hommes puissent eux aussi être sauvés, entrer dans cette filiation divine. Voilà les deux souhaits, et après il y a les demandes. La première demande, elle concerne donc le pain quotidien. Alors le pain quotidien, ça doit nous rappeler au moins deux choses. Première chose, la multiplication des pains. Parce que, vous vous rappelez, Jésus, il fait son enseignement, il y a tout le monde qui est là, et puis les disciples disent, bah, peut-être falloir les nourrir, parce qu'il n'y a rien à manger. Bah, et Jésus, il leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Sympa. Résultat, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, Jésus va donner cette mission, ce qu'on avait dit aux disciples, de les nourrir eux-mêmes. Mais c'est lui qui va produire la nourriture, à partir des 5 pains et des 2 poissons qui lui sont donnés. À nouveau, on l'avait évoqué, mais puisqu'on vient d'en reparler, le chiffre 7. Et puis, donc il les envoie, et ceux qui donnent à manger. Donc il y a cette importance du pain, ceux qui n'avaient pas à manger ont tous eu à manger, et il en restait même combien, on avait dit 12, comme les 12 apôtres qui venaient juste d'être envoyés en mission. Comme s'ils venaient d'être initiés, c'est ce qu'on avait dit, et que comme ils étaient initiés, ils devaient maintenant poursuivre. Ce qui trouvait écho avec « Vous ferez cela en mémoire de moi à la scène. » Et justement, la deuxième fois où on va entendre parler des pains... Pardon ? Alors, pardon ? Alors, il y a la scène, mais... Pas quand les 72 sont envoyés et qu'ils n'emmènent pas de nourriture avec eux. C'est manger ce qu'on vous donnera. Alors, ce n'est pas le pain directement, je suis d'accord. Mais toujours est-il que ça crée ce lien, celui de la nourriture et du don de la providence. Pour les foules, juste après l'envoi des 12, c'est Jésus qui nourrit tout le monde. Pour les 72, Jésus dit, non pas donnez-leur vous-même à manger, mais la providence vous donnera elle-même à manger. Et donc, ne vous souciez pas. Et donc, on voit comment le lien, maintenant, ça y est établi entre les 2 envois. On avait parlé de la dynamique hein, d'élargissement, mais là, on voit ce lien, notamment par le pain. Donc, il y a là l'idée que après les 2 actions de grâce, après les 2 souhaits, eh bien, il faut s'abandonner. L'homme reconnaît la sainteté du Père, l'homme reconnaît la gloire du règne, et donc l'homme s'abandonne. Il s'abandonne à la providence. Mais pas seulement à la providence quant à la subsistance, mais aussi, et c'est les demandes qui suivent, quant à la miséricorde de Dieu et quant à la victoire dans le combat spirituel. Alors il ne faut pas confondre après abandon et inactivité. Hein. Et c'est ce que d'ailleurs la mention du pardon vient, qui arrive juste après le pardon, vient nous rappeler. Hein. Nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Donc, ce n'est pas simplement « je reçois », mais c'est « je reçois et je donne ». Donc, l'abandon est quelque chose aussi d'actif. Et alors, il faut quand même aussi préciser quelque chose que Jésus ne dit pas, parce que c'est important qu'il ne le dise pas. Si les apôtres lui ont demandé de les initier à la prière, Jésus ne dit pas « cette prière remplace les autres ». Et donc ils vont continuer à prier de manière communautaire. Simplement, maintenant, pour leur prière personnelle, dans cette entrée qu'ils ont faite dans la filiation divine d'une manière dévoilée désormais, ils ont une prière qui est celle du Notre Père. Et après, bien sûr, puisqu'il y a l'exemple, et c'est pour ça que je les ai mis ensemble, de l'ami qu'on peut aller réveiller la nuit et qui finira par donner... la nourriture, eh bien, il y a cette idée que dans la prière personnelle, on peut, bien sûr, aussi faire une demande. Parce qu'on est devenu des intimes avec Dieu. Là, c'est le lien d'amitié qui est mis en avant par les paroles de Jésus. Mais donc, c'est vraiment ça, c'est la question de l'intimité. Et au-delà de l'intimité, arrive derrière la question de la filiation. Parce que quel père donnera à son fils ?